Chapitre 7. Oui, reprit-il, je lui ai dit que c'est moi qui me suis battu et que tu n'as fait que me servir de témoin. J'ai même commencé par là, sans attendre qu'il m'interrogeât. Et j'ai pas oublié de parler du soufflet que j'ai campé à cet homme et qui a rendu le duel inévitable. Je me suis, comme tu le vois, donné tous les torts. Et j'ai bien fait, car il a pris assez tranquillement la chose. Ça m'a l'air d'un brave garçon, ce fils de ce vieil avocat dont tu m'as tant rebattu les oreilles. Nous lui devons, toi et moi, une fière reconnaissance, dit Paul. Si nous avions eu affaire à un autre magistrat, nous ne causerions pas en ce moment devant ce café. Et je crois qu'il a eu bonne envie de m'envoyer en prison, mais il est revenu de cette idée en causant avec moi. Je vais avoir à consigner 25 000 francs dont le dépôt garantira que je ne brûlerai pas la politesse à la justice de mon pays. C'est bête le code, comme si ça m'empêcherait de décamper si je me croyais coupable. Il paraît que de toi on n'exigera pas de caution, ni des trois farceurs qui nous ont si bien lâchés après le duel. Est-ce que tu les lui as nommés ? Non, la police les a dénichés ce matin. Ils n'ont pas pu se tenir de raconter l'affaire à d'autres gamins. Tout le quartier la connaît. On les a priés de passer au palais, et quand je suis sorti du cabinet de ton monsieur Bardin, ils les y attendaient. J'aime autant ne pas les y avoir rencontrés, car j'aurais pas pu m'empêcher de leur dire ce que je pense d'eux. Voilà où nous en sommes. Quant à la suite, je n'en sais rien, je ne prévois rien. Ça peut finir par une ordonnance de non-lieu, mais ça finira plus probablement devant la cour d'assises, où nous serons acquittés haut la main. Alors, l'accusation d'assassinat... Ah, il n'en est plus question. Ça ne te l'est pas debout. Te voilà rassuré, je crois. Ah, j'oubliais. Il paraît que, décidément, c'est le marquis de Ganges que j'ai tué. Le juge a reçu un télégramme de Nice qui ne laisse aucun doute. Je suppose d'ailleurs que tu savais déjà à quoi t'en tenir, puisque tu connais sa femme, c'est-à-dire sa veuve. Quand il te plaira de me mettre au courant de tes relations avec elle, je t'écouterai volontiers. Maintenant que j'ai parlé devant monsieur, comme si monsieur était l'un de tes plus anciens amis, devant monsieur que je l'avais jamais vu. Oh, vous ne vous en souvenez pas? Mais nous nous sommes déjà rencontrés, interrompit doucement le vicomte. Où donc? Ben d'abord à la closerie des Lilas, dimanche dernier. Je causais avec monsieur Cormier, je venais de le quitter quand vous l'avez rejoint. Ah, alors vous avez dû assister à la querelle? Non, pas même au commencement. Et aujourd'hui, je vous ai revu près du rond-point des Champs-Élysées. Vous étiez assis sur un banc à côté de votre ami. Oui, quand je me suis aperçu que vous alliez aborder Cormier, j'ai filé sans vous regarder. Mais je vous reconnais. Et je ne mets pas en doute que vous soyez lié avec Paul. C'est pour cela que j'ai parlé devant vous de ma visite au juge d'instruction. Il me semble que le moment serait venu pour vous de me renseigner un peu sur... Oh, sur tout ce que vous voudrez, monsieur, dit avec empressement le vicomte, ou pour mieux dire, sur tout ce qui peut vous intéresser. Je vous ai dit qui j'étais et où j'avais rencontré monsieur Cormier. Il me reste à vous expliquer les suites de cette rencontre et le rôle que madame de Ganges y a joué. Précisément. Oh, mon rôle à moi a été très effacé, et je ne l'ai pas cherché. Votre ami le sait bien. Je tiens à le consulter avant de vous répondre au sujet de la marquise. M'engage-t-il à vous raconter des faits qu'il connaît aussi bien que moi, ou bien préfère-t-il vous les raconter lui-même? Je me rapporte entièrement à sa décision. Il vaut mieux que ce soit moi, dit Paul sans hésiter. Oui, c'est aussi mon avis. Je laisserai donc Monsieur Cormier vous éclairer sur une situation très délicate pour lui, pour Madame de Ganges et pour moi, si je m'en mêlais, ce qu'à Dieu ne plaise. Je ne reste pas moins à votre disposition, messieurs, vous me trouverez toujours prêt à vous servir. Le vicomte n'alla pas jusqu'à la poignée de main que Mirande aurait peut-être pu lui refuser. Il salua poliment et il s'en alla par le boulevard Saint-Michel. Mirande le laissa filer avant de dire rageusement à Cormier: Ah, t'es un drôle d'ami, toi! Et tu t'es si bien pris que si nous ne sommes pas tous coffrés, c'est pas ta faute. Comment? Tu m'envoies chez le juge d'instruction en me pressant de me déclarer et tu me caches les dessous de l'affaire. Tu me laisses croire que tu ne connaissais pas ce marquis de Ganges. Et voilà que j'apprends que tu es au mieux avec sa femme, mais tu aurais dû au moins m'avertir. Et tu me permettras d'ajouter que puisque tu es son amant, c'était à toi de le battre. Mais je ne suis pas son amant. Et je te somme de m'écouter au lieu de t'emporter et de m'adresser des reproches que je ne mérite pas. Soit, alors qu'as-tu à me dire? Oh, ici, rien. Tu vas me faire le plaisir de venir avec moi au Luxembourg. Nous causerons en nous promenant sous les arbres. Ce sera long et je ne veux pas qu'on nous dérange. Mirande criait toujours plus fort que son ami Paul, mais toujours aussi il finissait par se ranger à son avis. Il se tut donc et il le suivit jusqu'au jardin qui, dans la saison où on était, reste ouvert très tard. Paul lui fit traverser les allées qui entourent le bassin entre les deux terrasses. Il s'était mis en tête de lui raconter ses aventures avec la marquise à l'endroit où elles avaient commencé. Le décor n'avait pas changé depuis le mémorable dimanche où Paul Cormier, sans songer à mal, avait fait la connaissance d'une marquise. Les grands marronniers de la terrasse avaient toujours leur panache blanc. Et le soleil, à son éclat, éclairait obliquement la longue allée de l'observatoire. Seulement, il était tard et les promeneurs étaient moins nombreux. Les bourgeoises assises en famille avaient quitté le jardin et les étudiantes n'étaient pas encore en nombre. C'est le chemin qu'elles préfèrent pour aller à Bullier, mais le bal ne commence guère avant 10 heures. Et ces dames achevaient leurs cigarettes devant les cafés du Boulmiche. Les deux amis ne pensaient guère en ce moment au plaisir du quartier. Paul, fort ému et assez inquiet, cherchait un moyen de sortir des terribles embarras où il s'était mis, et Jean, très rogue et très mal disposé, attendait des explications que son ami ne se pressait pas de lui fournir. Voyons, dit-il en s'arrêtant tout à coup, te décideras-tu à parler, oui ou non? J'en ai assez de rôder sur cette terrasse, et je te prie de m'apprendre enfin ce que c'est que cette marquise de Ganges dont tout le monde me rabat les oreilles. Mais tu la connais? Répondit Cormier. Moi, allons, pas de blague, j'ai pas envie de rire. Mais je te répète très sérieusement que tu as vu la marquise de Ganges et que tu lui as parlé. Mais où, quand? Vociféra Mirande, dont la voix avait l'éclat des cymbales. Pas si haut, je te prie. Il est au moins inutile que les promeneurs nous remarquent. Il peut y avoir des mouchards ici comme ailleurs. Bon, c'est bon, je me tais. Explique-toi. Tu as vu Madame de Ganges dimanche dernier, pendant la musique au Luxembourg. Elle était assise là-bas, au pied de cette statue. Comment, la pimbèche blanche qui m'a si bien blackboulé? C'était la marquise. Alors, parbleu, toi qui la connaissais, tu aurais dû m'avertir qu'elle était si farouche. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour t'empêcher de l'aborder. Tu n'as pas voulu m'écouter. Mais à ce moment-là, je ne la connaissais pas du tout. C'est après, ou bien après, quand tu étais déjà parti avec tes noceuses. C'est alors seulement que je l'ai revue et que j'ai eu avec elle une conversation. Ah, je te reconnais bien. Tu fais tes coups à la sourdine, toi. Tu as attendu que je ne sois plus là pour me couper l'herbe sous le pied. Oh, je m'en moque, mais je tiens à te dire qu'on ne se conduit pas comme ça quand on pose pour le parfait gentleman. Mais laisse-moi donc parler. Je ne songeais pas à te supplanter. Tu y es arrivé tout de même, sans t'en douter. Je comprends que tu te sois laissé aller. Une marquise, c'est ton rêve, depuis que je te connais. Et la première que tu as trouvée par hasard, tu l'as pas manquée. Non, tu raisonnes à faux. Car au moment où elle m'adressait la parole, je ne me doutais pas du tout qu'elle était marquise. Je la prenais même pour une grande cocotte. Et c'est une illumination d'en haut qui t'a fait apercevoir sous son chapeau une couronne de marquise? Oh non, c'est plus tard que j'ai su qui elle était. Et je l'ai su par hasard. C'est-à-dire, oh, ne patauge donc pas dans les blagues. Oh, mais tu m'ennuies à la fin, s'écria Paul Cormier. Tu m'interromps sans cesse et je ne peux pas parvenir à placer un mot. Ah, je te déclare que si tu continues, je vais te planter là. Tu iras te renseigner ailleurs. Moi, je ne te reverrai plus. Allons. Ne t'écoute, raconte et sois bref. Tu en es resté au moment où tu as retrouvé la blonde que tu cherchais. Mais je ne la cherchais pas du tout. Je m'en allais tranquillement dîner chez ma mère au Marais. Au moment où je montais dans un fiacre, près de la grille de la rue de Vaugirard, une femme voilée entrait dans ce fiacre par l'autre portière et me faisait signe de prendre place à côté d'elle. Naturellement, je ne me suis pas fait prier. 2 minutes après, elle relevait sa voilette et je reconnaissais la dame de la terrasse. Alors, ben je te l'avoue, je me suis cru en bonne fortune. Oh, je m'y serais cru à moi, une femme qui t'enlève en voiture. Eh bien, je me trompais complètement. Dès que j'ai essayé de lui faire une cour un peu accentuée, elle m'a rembarré de la belle façon, en me menaçant de descendre. Et t'as été assez nigaud pour te tenir tranquille. J'aurais peut-être insisté si je m'étais promptement aperçu que je lui étais tout à fait indifférent et qu'elle ne m'avait pas fait monter que pour me parler d'un autre homme. Oh, ça c'est plus fort. Oui, mon cher. Pour me demander une foule de détails sur la vie que cet homme mène à Paris. Un homme que tu connais? Bien entendu. Si je n'étais pas lié avec lui, elle se serait adressée à un autre que moi. Un de tes amis, alors. Et tu ignorais qu'il a été l'amant de cette femme? Oh, je l'ignore encore et j'ajouterai que je ne le crois pas. Mais alors pourquoi t'intéresse-t-elle tant à lui? Je n'ai pas pu le savoir. Oh, décidément, tu me fais là des contes à dormir debout et je commence à me lasser de deviner des énigmes. Finissons-en, nomme-le-moi, cet ami qui a tourné la tête à ta marquise. Je suppose que je le connais, car autrement, ce ne serait pas la peine de me dire un nom qui ne m'apprendrait rien. Mais personne ne le connaît mieux que toi. Alors vas-y, comment s'appelle-t-il? Tu ne devines pas? Pas du tout. Eh bien, il s'appelle Jean de Mirande. Te moques-tu de moi? En aucune façon. Je te répète qu'elle ne m'a parlé que de toi tout le temps que le voyage a duré. Et sais-tu comment elle a commencé? Par me remercier de ne pas l'avoir abordée lorsqu'elle était assise sur la terrasse. Et elle ajoutait en parlant de toi, « Quel dommage qu'un garçon si bien né soit si mal élevé. Quand savait-elle si j'étais bien né ?» Ben, c'est précisément ce que je lui ai demandé. Elle m'a répondu que tu avais jeté à la volée ton nom et ton adresse. Elle ignorait ton adresse, mais ton nom lui était parfaitement connu parce qu'elle est comme toi du Languedoc. Seulement, si elle a beaucoup entendu parler de ta famille, il paraît, enfin, s'il faut l'en croire, que tu n'as jamais entendu parler de la sienne. Ben, ça prouve que la sienne n'est guère illustre, car je suis encore assez ferré sur l'armorial de mon pays. Ainsi, je sais depuis longtemps qu'il existe des comtes ou marquis de Ganges. Elle a épousé le dernier du nom. Eh, cette noble alliance ne me paraît pas lui avoir réussi, ricana Mirande. Mais pourquoi s'occupe-t-elle de moi? Je ne suis pas en mesure de te répondre, répondit Paul Cormier. Elle m'a questionné sur la vie que tu mènes à Paris. Elle a été jusqu'à me demander si tu avais une maîtresse. Et il m'a semblé qu'elle était contente d'apprendre que tu courais beaucoup sans t'attacher à aucune femme. Oh, si c'est comme ça que tu as fait mon panégyrique, je ne te remercie pas. Je ne pouvais rien dire qui te fût plus favorable, car j'ai très bien vu qu'elle craignait que tu eusses le cœur pris. Enfin, elle m'a tant et tant parlé de toi que j'ai fini par me fâcher. Je lui ai demandé pour qui elle me prenait. Alors elle s'est excusée en me jurant que je venais de lui rendre un immense service et que plus tard, elle me dirait tout, à condition que pour le moment, je ne lui en demanderais pas davantage. Et tu t'es soumis à la condition. Faute de pouvoir faire autrement. Je suis descendu de la voiture sans avoir rien obtenu que la promesse d'une lettre qu'elle devait m'écrire et que j'attendrais encore si je m'en étais tenu là. Ah, j'oubliais de te dire que pour me calmer, elle m'avait juré qu'elle ne t'aimait pas et qu'elle ne t'aimerait jamais, mais qu'elle ne pouvait pas t'aimer. Bon, je n'ai pas compris. Ah, moi, je ne comprends pas, à moins que cette marquise ne soit une sœur que feu mon père m'aurait donnée jadis sans me prévenir. Mais ça m'est égal, arrive au dénouement de l'aventure. Tu en es toujours à peu près au même point. On dirait que tu ménages tes effets. Non, je vais abréger. Elle m'a planté là, près du rond-point des Champs-Élysées, mais je l'ai suivie si adroitement qu'elle ne m'a pas vu. Elle est entrée dans une maison de l'avenue d'Antin. J'y suis entré sur ses talons, et je suis arrivé en même temps qu'elle au seuil d'une espèce de hall en plein vent, où un domestique m'a pris pour son mari et annoncé bravement « Monsieur le marquis et madame la marquise de Ganges !»« Ah, ça c'est amusant !» dit Mirande en riant. « Ben, pas si amusant que tu crois. » C'est à la méprise de cet imbécile de Larbin que nous devrons, toi et moi, des ennuis sans nombre. Je suppose que tu commences à deviner la suite. Bon, je l'entrevois, mais tu y as assisté. Tu y as même joué le rôle principal dans une scène à laquelle j'arrive. Chez la dame qui recevait avenue d'Antin, se trouvait ce vicomte de Servon que je viens de te présenter. Il n'avait jamais vu l'autre marquis de Ganges, le vrai. Il a cru que c'était moi. Je ne pouvais pas le détromper, sous peine de mettre la marquise dans un terrible embarras. Je l'ai laissé dire et j'ai pu, au bout de 2 heures, m'esquiver sans qu'il y eût de scandale. Je me croyais quitte. J'ai été dîner chez ma mère et après, je suis venu te rejoindre à Bullier. Je ne prévoyais pas que la fatalité y amènerait ce vicomte de Servon, qu'il m'appellerait très haut par mon faux nom et par mon faux titre. et que le mari, arrivé à Paris le jour même, se trouverait là tout à point pour entendre. Eh bien, maintenant, tu sais le reste. Ah, oui. Ah. Je conviens que tu es moins coupable que je ne pensais. Je te reproche pourtant de ne pas m'avoir dit la vérité avant le duel. Mais tu ne m'en as pas laissé le temps. Le soufflet que tu as donné au marquis m'a coupé la parole. Bon, j'ai été trop vif, mais après l'affaire, pourquoi m'avoir laissé croire que tu ne connaissais pas ce malheureux que je venais d'embrocher? C'était si simple de m'apprendre que c'était impossible. Avant le combat, pendant le trajet que j'ai fait à côté de lui, il m'avait raconté son histoire et il m'avait chargé de remettre, s'il lui arrivait malheur, son portefeuille à sa femme. J'avais accepté, je ne pouvais rien te dire avant de m'être acquitté de cette triste mission. Ben, c'est juste. Et il est survenu un tas d'incidents que tu m'as raconté tantôt aux Champs-Élysées, entre autres l'intervention de ce chenapan qui nous a vus au bastion et qui t'a dénoncé. Tout ça commence à se débrouiller. Mais la marquise, cette marquise dont tu viens de me parler ce soir pour la première fois, tu l'as revue puisque tu lui as remis le message de son mari. Je l'ai revue hier chez elle et notre entrevue a duré plus d'une heure. Bon, alors tu dois être fixé sur son compte. Pas beaucoup mieux que je ne l'étais le premier jour. D'abord, j'ai eu beaucoup de peine à arriver jusqu'à elle. Je ne voulais pas faire passer ma carte de peur qu'elle refusât de me recevoir. J'ai dit que je venais de la part du marquis de Ganges. Je ne mentais pas. Mais l'homme à qui j'ai eu affaire a commencé par me dire que c'était impossible. Oh, tu le connais celui-là, tu as eu maille à partir avec lui dimanche au Luxembourg. Ah, c'était Scogriffe, qui a l'air d'un gendarme en bourgeois. Précisément, il paraît que c'est un ancien officier qui a été jadis l'ami du père de la marquise. Il occupe chez elle les fonctions de garde du corps ou de porte-respect. Bref, Madame de Cange a fini par me recevoir dans le jardin de son hôtel où elle était avec une jeune femme de ses amis qui m'a cédé la place et que j'ai saluée en passant. Ah, une merveilleuse beauté, mon cher, aussi brune que la marquise est blonde. Enfin, je n'ai pas osé demander qui elle était. Bon, moi, je ne tiens pas à le savoir. Alors, arrive à ton explication avec la marquise. Elle a été longue et orageuse, explication. Madame de Ganges m'a amèrement reproché ma conduite de la veille. Bon, j'ai essayé de me justifier en lui déclarant que j'étais amoureux d'elle. Et c'est vrai, mon cher, je suis pris. Tant pis pour toi, continue. Comment a-t-elle pris la nouvelle de la mort de son mari? Elle a d'abord refusé d'y croire, mais quand je lui ai remis le portefeuille, elle a changé de note. Elle a été très émue, très troublée. Oh, il ne m'a pas paru qu'elle fût très affligée. Ce marquis était un fort mauvais mari qui lui a joué tous les tours imaginables et qui lui a mangé une partie de sa fortune. On ne peut pas le regretter beaucoup. Lui as-tu raconté comment il était mort? Ben, il le fallait bien. Je lui ai tout dit. Les confidences que son mari m'avait faites, les incidents qui ont amené la rencontre, et même le nom de l'adversaire du marquis, elle me l'a demandé. Et quand elle a su que c'était moi, elle a eu un cri parti du cœur, une exclamation que je tiens à te répéter comme je l'ai entendue. Elle a dit « Jean de Mirande, c'était donc écrit qu'il troublerait encore une fois ma vie. » Et comme je lui ai naturellement demandé ce que tu lui avais fait, elle m'a répondu « Il a fait le malheur d'une personne à laquelle je m'intéresse. » Du diable, Sulvinski. Elle aurait bien dû prendre la peine de me le dire quand je l'ai abordé dimanche sur cette terrasse où tu m'as ramené ce soir. Nous n'en serions probablement pas où nous en sommes. Mais laisse-moi te raconter comment s'est terminée mon entrevue. La marquise y a mis fin en me congédiant assez sèchement, sans me rien promettre et en me laissant entendre qu'elle allait quitter Paris. J'ai eu beau lui dire que rien ne la forçait à partir, que cette affaire serait vite oubliée et que, s'il le fallait pour la tranquillité, je m'abstiendrais de la revoir. Elle n'a rien voulu entendre et j'ai dû me retirer sans avoir rien obtenu d'elle qui ressemblât à un engagement. « Ça vaut mieux pour toi, » dit philosophiquement Mirande. « Cette marquise ne porte pas bonheur. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne plus penser à elle. » « J'ajoute, » reprit Cormier, toujours plein de son sujet, « qu'on est venu, pendant que j'étais là, apporter une lettre adressée au marquis de Ganges, c'est-à-dire à moi, une lettre contenant de l'argent, 8 000 francs, que la veille j'avais gagné sur parole à ce vicomte de Servon, chez la dame de l'avenue d'Antin. La marquise l'a renvoyé. Et tu n'en as plus entendu parler ? Demanda Mirande en éclatant de rire. Monsieur de Servon m'a remis la somme aujourd'hui, quand je l'ai rencontré aux Champs-Élysées. Oh, mais tu roules sur l'or ! Je ne t'ai jamais connu tant d'argent à la fois. Et je n'en ai jamais eu dans la possession, mais fait si peu de plaisir. Je le donnerai sans regret au premier mendiant que je rencontrerai. Bon, garde-le pour une meilleure occasion. Maintenant que tu m'as tout dit, car je suppose que c'est tout. Oui, tu sais le reste. Ma visite au père Bordin, l'interrogatoire dans le cabinet de son fils, l'entrée en scène de cet abject coquin. Oui, je connais tout. Alors maintenant, résumons-nous. Me voilà fortement compromis, toi un peu moins, mais ta marquise pas du tout, jusqu'à présent. Que comptes-tu faire? As-tu toujours l'intention de te faire son champion, sans qu'elle t'y ait convié, ni même autorisé? Je ne peux pas la défendre malgré elle, mais je l'ai quittée en lui jurant qu'elle me trouverait toujours prête à faire ce qu'elle demanderait et je tiendrai ma parole. Alors, tu en es décidément amoureux? Oui, amoureux fou. Bien fou, en effet, mais ça te regarde. Je n'entreprendrai pas de te guérir, je n'ai qu'une simple question à t'adresser et je te prie d'y répondre nettement. Parle. Trouveras-tu mauvais que moi, qui ne suis pas amoureux de la dame en question, et qui ne le deviendrai jamais, je t'en réponds. Trouveras-tu mauvais que j'aille la voir? Non, mais tu ne la verras pas. Non, c'est mon affaire. Je te demande seulement si tu ne m'en voudras pas d'essayer. Pourquoi t'en voudrais-je? Tu aurais bien tort, car je te jure que je ne lui ferai pas la cour. Je te crois, mais tu peux bien me dire pourquoi tu tiens à la connaître. Il me semble d'ailleurs que tu oublies un peu trop que tu as tué son mari. Elle le sait, puisque je lui ai dit. Et je suis très sûr qu'elle s'en souvient. Mais c'est un rude service que je lui ai rendu là. Peut-être, mais il ne serait pas décent qu'elle en convainc. Et encore moins qu'elle te reçut. Qu'elle me reçoive ou non, je trouverai bien le moyen de lui parler. Mais lui parler de quoi? Ben, du passé, parbleu, de sa vie, que, s'il faut l'en croire, j'ai déjà troublé, sans m'en douter, de cette personne, enfin, qui l'intéresse et dont j'ai fait le malheur. Je te cite ses propres paroles que tu m'as répétées tout à l'heure. Et tu espères qu'elle t'en dira davantage? Oh, non seulement je l'espère, mais je n'en doute pas. qui ferait beau voir qu'elle refusa de s'expliquer. J'ai la prétention de n'avoir fait le malheur de personne, et je n'admets pas qu'on m'accuse sans preuve, même quand c'est une femme qui m'accuse. Je sommerai donc catégoriquement ta marquise de me nommer ma prétendue victime, quand ce ne serait que pour me mettre à même de réparer mes torts, si par impossible j'en avais eu. Je soupçonne qu'il y a là-dessous un malentendu, mais je veux en avoir le cœur net. Et si, comme elle le prétend, elle est du Languedoc, nous arriverons vite à nous entendre. Je n'ai pas, je pense, besoin d'ajouter que mes relations avec elle resteront là. C'est tout au plus si je profiterai de cette première et unique entrevue pour lui faire de toi un éloge bien senti, conclut en riant Jean de Mirande. Comme tu voudras, dit Paul, pourvu que je ne m'en mêle pas. Bon, j'espère bien, tu me gênerais. Moi, je vais tâcher de voir notre juge. Il viendra peut-être ce soir chez son père. Je vais m'y transporter. Et dîner ? Interrogea Mirande. Tu penses à dîner, toi ? Mais parfaitement, et je te déclare que je vais de ce pas prendre chez Foyot quelque nourriture. Eh bien, moi qui n'ai pas faim, je vais prendre une voiture qui me conduira au Marais. Alors, viens avec moi jusqu'à la rue de Vaugirard. Nous n'avons que le temps. La retraite est battue, on va fermer les grilles. En effet, la nuit tombait, la terrasse s'était vidée peu à peu, et les gardiens avaient commencé leur ronde pour faire sortir les retardataires. Au bout du quinconce, sous les derniers marronniers, près d'une baraque où on vend des gâteaux et des jouets et que la marchande venait de clore, un adjudant, médaillé, parlementait avec un enfant qui s'obstinait à rester sur une chaise où il s'était assis à la turque, les jambes croisées. « Allons, petit, décampe !» disait l'adjudant, on ferme.
Ça m'est égal, j'attends maman, répondait l'enfant.
Mais où est-elle, ta maman? Si elle était au Luxembourg, elle viendrait te chercher.
Elle va venir.
Eh bien, elle te trouvera à la maison. Allons, j'ai pas le temps de t'écouter. Oust, des canis ou je te flanque au violon? Le gardien allait empoigner le récalcitrant au collet, mais le petit se leva d'un bond, sauta au bas de la chaise, s'adossa au piédestal d'une statue, et brandissant une pelle en bois qu'il tenait dans sa petite main, il cria de toute la force de sa voix enfantine « Vous, si vous me touchez, je vous casse la figure !» Il était si comique dans cette attitude menaçante que l'adjudant ne put pas s'empêcher de faire comme les deux amis qui riaient de bon cœur. « Il me plaît, ce moucheron !» dit Mirande. « Il est gentil comme un amour, mais il me semble que son éducation a été quelque peu négligée, » reprit gaiement Paul Cormier. « Oh, je ne trouve pas. On veut le faire marcher, ça lui plaît pas, il se rebiffe. Il a raison. Si j'avais un garçon, je le voudrais comme ça. » Voyons un peu comment la discussion va finir. Allons, méchant môme, reprit le gardien, finissons-en. File, si tu veux pas que je te mène au poste où on te mettra jusqu'à demain dans un cachot tout noir. Tu seras bien mieux chez ta maman. L'enfant, au lieu de répondre, resta sur la défensive, le dos appuyé au piédestal et la pelle levée comme un sabre. Le gardien n'avait qu'à étendre la main pour l'enlever comme une plume, mais le brave homme hésitait de peur de faire du mal à un récalcitrant qui n'avait pas beaucoup plus de 5 ans et qui n'était guère plus gros qu'un moineau. Ce révolté précoce était très bien habillé à la russe, toque en tête, culotte de velours, chemise de soie rouge et bottes minuscules montant jusqu'aux genoux. Il avait tout à fait l'air d'un enfant de bonne maison, bien soigné et bien nourri. La figure était charmante, ronde, avec un teint d'un blanc mat, de grands yeux noirs bien ouverts, des cheveux bruns très fins coupés, carrément sur le front. Sérieux avec cela, comme un petit homme, et pas plus intimidé devant ce militaire à grande moustache que s'il avait eu affaire à sa bonne. « Il est un peu jeune pour coucher au poste, » dit en riant Mirande qui s'était rapproché. « Eh, parbleu, j'ai pas envie de l'y mettre, » s'écria l'adjudant. « C'est pas sa faute à ce gamin si ses parents l'ont oublié là. Bien sûr, il n'est pas venu ici tout seul. Il devait être avec sa mère et elle est partie sans s'inquiéter de lui. Oh, est à Paris pour voir des choses comme ça. »
Qu'est-ce que vous dites de ma mère ?
Cria le petit en grossissant sa voix et en faisant mine de se jeter sur le gardien. Il était si drôle que le gardien se mit à rire et dit à Mirande, qui se tenait les côtes, « Mais c'est de la graine d'insurgés, ce crapaud-là ! Ah, on les élève bien à présent, les mioches ! Pour lui apprendre à vivre, j'ai bonne envie de l'enfermer dans le jardin. Quand il fera nuit noire, il aura peur. » Il sera bien appelé au secours. C'est peut-être votre uniforme qu'il est farouche, dit Jean. Voulez-vous que j'essaye de lui faire entendre raison ? Oh, comme vous voudrez, pourvu que ça ne traîne pas, car nous allons fermer, et vous seriez pris, messieurs. Pas de danger, et je réponds du petit. L'adjudant haussa les épaules, et reprit sa ronde, pendant que Mirande s'approchait de l'enfant qui n'avait pas cessé de le regarder depuis le commencement de cette petite scène et qui l'attendit de pied ferme. Cormier admirait la désinvolture de son camarade qui, dans la situation où ils étaient tous les deux, prenait souci d'un marmot égaré sous les arbres d'un jardin public, sans s'inquiéter de prévoir où le mènerait cette fantaisie de jouer au Saint-Vincent de Paul. Et Cormier n'avait garde de s'en mêler, car il lui tardait de se faire conduire au Marais pour s'aboucher avec Bardin. « Mon petit ami, » dit Mirande au gamin toujours campé comme un jeune coq qui s'apprête à jouer de l'ergot, « ce militaire a eu tort de vouloir vous emmener de force, mais c'est bien vrai qu'on va fermer le jardin. » Vous voyez que monsieur et moi, nous nous en allons. Voulez-vous venir ? Avec vous, je veux bien, répondit aussitôt l'enfant. Vous ne me tutoyez pas et vous me parlez poliment, vous. Un fils de roi déguisé, ricana entre ses dents Paul Cormier. Donnez-moi la main, reprit Mirande. Le petit la lui donna, non sans l'avoir encore une fois toisée de la tête aux pieds. Il avait commencé par là avant de lui répondre. Probablement la physionomie de l'étudiant lui plaisait. « Mais tu es fou !» dit Paul à l'oreille de son ami. « Mais qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant ?»« Bon, c'est rien. Le reconduire chez sa mère. Ça m'amusera. Après tout, elle est peut-être jolie. » « Oh, tu seras toujours le même. Ben, »« J'espère. »« Mais malheureux, une mère qui oublie son enfant au Luxembourg, comme est Louis Blouret son lambrelle, je te demande quelle espèce de femme ça peut bien être. »« Oh, une femme distraite, assurément. »« Moi, je crois qu'elle a fait exprès de le perdre. »« Oh, comme le petit Pousset, alors. Oh, ce serait abusant. » Le comte a été mis en féerie. J'ai vu ça à la Gaîté et je jouerais volontiers un rôle dans une machine comme ça. Mais tu y jouerais un rôle de dupe si, comme je le soupçonne, cette mère veut se débarrasser d'un fils qui la gêne. Je te parie, moi, que c'est une très brave femme qui me remerciera de lui ramener son garçon. Et du reste, quand même, tu aurais deviné, je n'abandonnerai pas ce petit. Il me va parce qu'il a le diable au corps. Ah, comme toi, parbleu. Peut-être bien, mais ne te monte pas la tête, mon vieux Paul, et va, enfin, non, à nos affaires. Je verrai ce que je peux faire de ce moutard. Et quand je serai obligé de le garder jusqu'à demain matin, il n'y aurait pas grand mal. J'ai de la place chez moi pour le coucher. Mais sois tranquille, je ne me propose pas encore de l'adopter. Et demain, j'aurai d'autres choses à fouetter que de faire la bonne d'enfant, car je veux voir Madame de Ganges quand je devrais escalader le mur de son jardin. Les deux amis étaient arrivés à la grille de la rue de Vaugirard, Mirande tenant toujours par la main l'enfant qui ne disait mot. « À demain matin, » dit Paul en tirant de son côté, « ne sors pas avant de m'avoir vu. » Mirande le laissa partir et fila vers la rue de Tournon, où il se proposait de dîner au restaurant Foyot. Il eut soin, bien entendu, de raccourcir ses enjambées afin de se mettre au pas du petit, lequel trottinait à son côté, sans manifester la moindre velléité de le quitter et sans demander où le menait son conducteur. Et Mirande, qui ne s'étonnait pas facilement, commençait à s'étonner de la hardiesse insouciante de ce gamin qu'il venait de ramasser au Luxembourg. Ce morveux ne s'inquiétait pas plus de sa mère que s'il n'en avait jamais eu. Devant le palais du Sénat, Vera, l'étudiante russe, et Maria, l'élève sage-femme, leur barrèrent le passage. Mirande, qui ne les avait pas revus depuis la soirée de dimanche à la closerie des Lilas, se serait bien passé de les rencontrer. Mais il en prit son parti, sachant bien qu'il ne pourrait pas toujours les éviter, et comme il ne faisait jamais les choses à demi, il commença par les inviter à dîner. Ces demoiselles acceptèrent avec enthousiasme, et Maria s'écria: « C'est à toi ce beau Mac ? Oh, ne dis pas que non. Oh, il te ressemble. C'est toi, tout craché. » Mirande allait protester contre la paternité qu'on lui attribuait. Mais l'enfant dégagea sa main, vint se planter devant l'apprentie sage-femme, et de sa voix grêle, il lui cria en se haussant sur ses orteils: « Pourquoi m'appelez-vous mon Mac ? Je suis pas un singe, et d'abord je vous connais pas et je vous défends de me parler. » « Il a entendu macaque, » dit Vera en riant aux éclats. « Oh, l'amour de mioche !» s'écria Maria. « Fier et colère comme son père, oh, tu ne peux pas le renier, celui-là. »« Mais taisez-vous donc, vous autres, vous ne dites que des bêtises, » interrompit Mirande. « Laissez-moi parler à ce jeune homme. » Et s'accroupissant jusqu'à ce que sa figure se trouvât à la hauteur de celle de l'enfant. « Mon petit ami, lui dit-il doucement, ces dames qui sont de mes amies désireraient vous connaître. Voulez-vous nous dire votre nom ?»« À elle, pas, non. À vous, oui, » répliqua ce singulier gamin. « Je m'appelle Rock. »« Je vous remercie, mon ami. Rock, c'est votre petit nom. Mais comment se nomme votre papa ?»«
J'ai pas de papa. »«
Mais vous avez une maman. »«
J'en ai deux. »
À cette époque, cette réponse les... étudiantes pouffèrent et Mirande eut beaucoup de peine à tenir son sérieux. Il y parvint pourtant, et comme il ne se souciait pas de continuer dans la rue cet interrogatoire qui aurait fini par attirer l'attention des badauds, il reprit en changeant de sujet. « Voulez-vous venir dîner avec moi, mon cher Rock ?
Avec vous, oui, répondit l'enfant terrible, mais avec six vilaines, non.
Les vilaines, c'étaient les deux étudiantes qui se tordirent de plus belle en dépit des gros yeux que leur faisait Mirande.
Ha ha, il vous l'envoie pas dire, s'écria l'élève de la maternité.
Je vous assure, mon petit ami, que ces demoiselles vous aiment beaucoup et qu'elles ne demandent qu'à vous faire plaisir. Vous m'en ferez un très grand, moi, si vous voulez venir.
Rock écouta gravement ce discours, comme on n'en tient guère aux enfants de 5 ans, et il finit par répondre, non moins gravement,
« Eh bien, je viendrai pour vous.
À la bonne heure. Avez-vous faim ?»«
Non, j'ai mangé beaucoup de gâteaux au Luxembourg. » Je mange toujours beaucoup quand je sors avec maman Jacqueline.
Elle était donc avec vous, maman Jacqueline?
Oui, et puis une dame est venue la chercher, alors elle m'a dit de l'attendre. Mais elle n'est pas revenue. Oh, elle reviendra demain et vient tous les jours. Je serais resté dans le jardin si ce méchant soldat m'avait rien dit.
Vous auriez eu grand-peur la nuit.
Oh non, j'ai peur de rien.
Vous avez tout de même bien fait de venir avec moi. Parce que ce soir, quand nous aurons dîné, je vous reconduirai chez votre maman.
Vous savez donc où elle demeure?
Non, mais vous me montrerez le chemin.
Moi, je le connais pas. C'est très loin. Avec maman Jacqueline, nous venons toujours en voiture.
Et vous croyez qu'elle viendra demain?
Oh oui, à la place où j'étais quand vous êtes passé.
Bien, mon petit ami, bien, je vous y ramènerai. Ce soir, vous coucherez chez moi.
Les deux étudiantes ne perdaient pas un mot de cette causette qui obligeait Mirande à marcher courbée en deux pour se faire entendre du petit et qui les mena jusqu'à la porte du restaurant. Il avait là ses grandes entrées et on l'y traitait avec toute la considération due à un client qui fait régulièrement une grosse dépense. On lui gardait tous les soirs une table au rez-de-chaussée dans le bon coin et un cabinet au premier étage pour le cas où il y aurait des dames. Et le cas n'était pas rare. Ce soir-là, bien entendu, on prit possession du cabinet et ces dames, comme toujours, commandèrent le menu du dîner pendant que Mirande s'amusait à faire jacasser l'étonnant gamin qu'il venait de recueillir. Jamais l'ami de Paul Cormier n'avait vu ni imaginé un pareil enfant. Rock, par instant, raisonnait comme un homme, et en même temps il donnait des preuves d'une ignorance extraordinaire. Il ne savait rien, il n'avait rien vu, et cependant rien ne paraissait le surprendre. Ainsi on voyait bien qu'il n'avait jamais mangé au restaurant, et pourtant il ne fit pas une question à propos du service des garçons et des bruits qui montaient du rez-de-chaussée. C'était à croire qu'il avait passé sa toute jeune vie dans une tour comme certains princes des contes de fées. Il ne faisait pas de faute de français en parlant, et il ne se servait que de locution d'une politesse recherchée, mais en lui montrant une carte des prix de l'établissement, Mirande put constater qu'il ne savait pas lire. Les deux invités étaient revenus de leurs premières idées de ressemblance entre le gamin et Mirande, quoique Maria persistât à soutenir qu'ils avaient tout à fait les mêmes yeux et la même façon de porter la tête. Mais elle s'amusait beaucoup de ce petit être qui les examinait avec une insolence imperturbable. Vera, s'étant avisé de dire que son habillement à la russe n'était pas réussi,
il l'avait vertement rabroué en lui disant que c'était maman Jacqueline qu'il avait choisie et que maman Jacqueline avait très bon goût. Mirande aurait bien voulu le pousser sur cette maman Jacqueline, mais quand il lui en parlait, l'enfant ne répondait pas grand-chose. Son autre maman, qu'il ne nommait pas, devait être une amie de la vraie, peut-être une sœur qu'on ne l'avait pas accoutumée à appeler ma tante. De celle-là aussi, il parlait fort peu. Du reste, le pauvre bébé était visiblement fatigué. Mirande, qui commençait à le prendre en amitié, eut pitié de lui et le laissa s'assoupir peu à peu sur la petite chaise où on l'avait juché pour le mettre à table après que Maria lui eut attaché une serviette au cou. En sa qualité de future sage-femme, Maria avait des instincts maternels qu'elle contenait pour ne pas troubler ses études, mais qui ne demandaient qu'à se faire jour. Le bruit du duel s'était répandu lentement dans le quartier et Mirande, qui y avait joué le principal rôle, dut subir de la part de ces demoiselles un interview complet. Il dit ce qu'il lui plut de dire et il n'eut pas trop de peine à éviter de mettre en scène la marquise de Ganges, dont les deux étudiantes ignoraient absolument l'existence. Puis il revint à l'enfant dont il commençait à se préoccuper sans trop savoir pourquoi. Il l'avait emmené sans se demander ce qu'il allait en faire. Une idée qui lui était venue tout à coup et aux conséquences de laquelle il n'avait pas pris le temps de réfléchir. Jean de Mirande était l'homme du premier mouvement, qui n'était pas toujours le bon. Et cette fois, il ne regrettait pas d'y avoir cédé. Recueillir un enfant égaré ou abandonné, c'était une bonne action, dont il ne pouvait que se féliciter et qu'il se sentait tout disposé à parfaire en s'occupant de rendre à sa mère ce singulier garçonnet. Il n'aurait même pas répugné à le garder et à se charger de lui s'il ne retrouvait pas cette mère encore plus singulière qui était parti sans son fils et qu'on n'avait plus revu. Depuis qu'il avait l'âge d'homme, Mirande ne s'était jamais occupé des enfants que pour demander à quelle heure on les couchait. Il les considérait comme des êtres malfaisants et surtout incommodes. Il avait toujours fui comme la peste les femmes affligées de progéniture, et comme celles-là sont rares au quartier latin où il passait sa vie, il n'avait jamais l'occasion d'être gêné par la marmaille. Il approuvait fort le législateur d'avoir interdit la recherche de la paternité et il ne lui était jamais arrivé de souhaiter se perpétuer le nom de Mirande qui s'éteindrait en sa personne s'il ne se décidait pas à changer d'existence. Et il n'en prenait pas le chemin. Aussi n'en revenait-il pas de se découvrir des sentiments qu'il ne se connaissait pas. Il n'y voulait pas croire et il comptait bien que cet accès d'attendrissement paternel passerait comme beaucoup d'autres caprices auxquels il était sujet. Vera, la Russe, qui comme lui manquait absolument de vocation pour le mariage et ses conséquences, se mit à le blaguer à propos du petit. Maria, l'élève sage-femme, prit le contre-pied et Mirande, pour entretenir une discussion qui l'amusait, se fit un malin plaisir d'exagérer en déclarant qu'il ne lui manquait pour être heureux que d'avoir un intérêt dans la vie et que son bonheur serait d'avoir un enfant comme celui-là. « Farceur, va, lui dit la nihiliste. Oh, faudrait bien t'y voir avec un gosse sur les bras. Où le remiserais-tu les soirs de Bullier ?»« Il n'aurait qu'à me le confier, répliqua Maria. De ça pour l'élever au biberon, avec de l'absinthe au lieu du lait. Oh, tu ferais mieux, mon vieux Jean, de l'envoyer à l'école, puisqu'il ne sait pas lire à 5 ans. C'est reine. » Qu'est-ce que ça peut bien être que son père et sa mère? Absent le père. Le môme vient de vous dire qu'il n'en avait pas. Probablement la mère n'est pas pour l'instruction obligatoire. Mais comme une idée qui ne vaut pas cher, cette mère-là. Rock, qui sommeillait, ouvrit un œil, regarda fixement Vera et se rendormit presque aussitôt sur sa chaise. C'est drôle, murmura l'apprenti sage-femme. On dirait qu'il a entendu et qu'il a compris. Un enfant prodige, alors, ricana la Russe. Dis donc, Jean, es-tu bien sûr qu'il n'est pas à toi? Oh, on n'est jamais sûr de ces choses-là, répondit en riant Mirande. Eh, si nous lui demandions un peu de nous raconter d'où il sort, et ce qu'il a fait depuis qu'il est plus en nourrice? Oh, ben laissez-le en repos, vous voyez bien qu'il n'en peut plus. Et du reste, reprit Vera, je parie que vous aurez beau le questionner, il vous dira pas ce qu'on lui a défendu de vous dire. Comment, tu crois qu'on lui a fait la leçon? Oh, parfaitement. Mais dans quel but? Ben, ce que je sais, une femme qui t'en veut et qui cherche à te jouer un tour. Je me demande quel tour on pourrait me jouer avec ce petit. Ben, peut-être te compromettre, dire que tu es son père et te forcer à le reconnaître. Si je croyais ça, grommela Mirande en fronçant le sourcil, je le conduirai ce soir chez le commissaire de police et je l'y laisserai. Oh, ce serait très mal, s'écria avec conviction Maria. Je l'emmènerai plutôt chez moi. J'ai un petit lit pour le coucher, le pauvre chérubin. Mais vous voyez bien qu'il dort de tout son cœur. C'est cette Vera avec ses imaginations. Si on l'écoutait, on verrait des mystères et des complots partout, comme dans son pays. Cette fois, il n'y avait pas à en douter. L'enfant dormait si bien qu'il glissait insensiblement sur sa chaise et qu'il serait tombé si Mirande ne l'eût enlevé et couché sur un divan qui n'avait pas été mis là pour servir de berceau à un petit garçon. La conversation prit un autre tour. Aussi bien, elle commençait à agacer Mirande qui se reprochait presque d'avoir fait dîner l'enfant perdu en compagnie de deux demoiselles peu respectables. Si je retrouve sa mère, pensait-il, et s'il lui raconte que je l'ai menée chez Foyot avec des habitués de la closerie des Lilas, elle n'aura pas une haute opinion de moi. On se remit à parler du duel, et Mirande s'aperçut qu'il avait grandi de 100 coudées aux yeux de Vera depuis qu'elle savait qu'il avait lestement expédié un homme dans l'autre monde. Cette moscovite ne rêvait que bataille et extermination. Maria, moins féroce mais plus curieuse, voulut avoir des nouvelles d'ailes sur le drame où Jean avait joué le principal rôle, et lui en demanda tant qu'il finit par ne plus lui répondre et qu'il songea à lever la séance. On était au liqueur et Vera, qui ne tenait pas en place, fumait de grosses cigarettes à la fenêtre pendant que la tendre Maria contemplait le petit Rock dormant du sommeil de l'innocence. J'en étais sûr, s'écria tout à coup la Russe. Nous avons été suivis par un mouchard. Oh, toi, dit Mirande, tu vois des mouchards partout. Mais je les vois où ils sont. Venez un peu ici, que je vous montre celui-là. Jean se leva, s'approcha, et aperçut de l'autre côté de la rue de Tournon, à l'angle de la rue de Vaugirard, un homme, immobile comme une borne, qui avait l'air de monter la garde. « Eh bien, quoi ?» demanda-t-il en haussant les épaules. Il attend une femme qui lui a donné rendez-vous là, il en a bien le droit. Maria ou moi alors, car il quitte pas les yeux la fenêtre de notre cabinet. Oh, tu m'ennuies à la fin. Je ne me cache pas, hein, si c'est à moi qu'il en a, il saura bien me le dire quand je vais rentrer chez moi à pied. Et comme le garçon apportait la note qu'il avait demandée, Miranda la paya sans vérifier l'addition, prit dans ses bras le petit Roc qui se réveilla, marmotta quelques mots et se rendormit presque aussitôt, descendit l'escalier, sortit du restaurant, tourna du côté de l'Odéon et s'achemina à grands pas vers le boulevard Saint-Germain où il demeurait. Il ne se retourna même pas pour regarder si le prétendu mouchard le suivait, et il arriva chez lui sans incident d'aucune sorte. Décidément, la fibre paternelle prenait le dessus et, si ses amis du quartier l'avaient rencontré, faisant ainsi la bonne d'enfant, il en aurait certainement cru qu'il était devenu fou.